J'aimerais appeler Anna Swallow maintenant.
Welcome.
Bienvenue.
Babam pshish njui ai mo mao. Tu tau sun laban egit mui ju chitao. Hu na babam ege so kanagit chitato yo ndo sti yo. Num shum li jali disin gaso ek nohum desi jali.
Donc, je vais parler de mon grand-père qui est décédé en 2011 et ensuite je parlais de mes parents lorsque mon père a épousé donc ma mère Hélène, donc les grands-parents plutôt Billy et Daisy, mes grands-parents maternels. Et une fois mariés, c'est là où ils ont commencé à chasser dans ce domaine ou dans cette région. Alors sur la R19, R20, c'est là où les choses ont commencé lorsque mon père est décédé. Nous avons dû être confrontés à une situation difficile. Ensuite, ma mère est décédée en 2012. Et en 2013, mon mari est décédé, ainsi que ma grand-mère. Donc, c'était la mère, c'était l'aînée qui adoptait, qui avait traditionnellement adopté mon père. Et sa femme, donc la grand-mère Sarah, elle a très bien traité mon père, elle s'est très bien occupée de lui. Et c'est là où ces enseignements peuvent être tirés. Ma grand-mère s'était vraiment très très bien occupée de lui. En 2013, c'était une année fort difficile. Car j'ai perdu également ma sœur. En 2013, c'est ma tante également, donc la sœur de ma mère, Harriet et Louise, donc deux sœurs de ma mère, sont également décédées. Nous avons donc été confrontés à des temps difficiles, des temps extrêmement difficiles. Et je crois que ceci nous a donné l'occasion de voir en fait que nous ne détestions personne. Que c'est toujours important de se respecter, de se traiter mutuellement sur un pied d'égalité. Et c'est, je remercie le Créateur de m'avoir apporté la paix et une grande sérénité pour éviter de blesser qui que ce soit. Mon père a commencé à chasser lorsqu'il était chasseur, il s'occupait de mon grand-père et de ma grand-mère. C'était lui qui, en fait, était celui qui apportait la nourriture, qui s'occupait de la famille, qui était la personne qui se chargeait donc de cette responsabilité et le pourvoyeur. Et c'est également la personne qui aidait, qui soutenait. Et mon père était aussi chasseur sur les eaux 19 et 20 et il pourvoyait pour tous les aînés, comme je l'ai mentionné auparavant. La mère de mon père et mon grand-père et ma grand-mère donc étaient des aînés et ils étaient donc trop âgés pour pratiquer la chasse eux-mêmes. Et donc le fils aîné avait décidé d'étudier et de travailler. Donc il a commencé ses recherches. Et il y en avait d'autres. Je ne me souviens plus de leur nom. Mon père était celui qui, pendant très longtemps, était celui qui s'occupait des terres. Et c'est ainsi qu'il est devenu un maître de trappage sur nos terres. Mon intention ici n'est pas de blesser qui que ce soit. Je voulais simplement porter ceci à votre attention afin justement de vous aider à mieux comprendre la situation. Et c'est là où Anderson Jolly donc a joué un rôle. La famille Jolly, c'est une grande famille. Vous avez Anderson, Harriet, la sœur qui a eu 3 filles. Il y avait les Black Nets, les Tanouches. Vous avez ensuite les Apache, une grande famille également. Nous sommes de grandes familles ici. Donc c'est toute la famille élargie, en fait, du côté de mon père. Nous étions toujours tous ensemble pour pratiquer la chasse dans la manière aussi de vivre notre vie en respectant nos traditions, y compris moi-même. J'ai vécu avec mes parents pendant 12 ans sur les terres. C'est une longue période, jusqu'à temps que je me marie. Je ne suis pas beaucoup allé à l'école. J'ai quitté l'école. Mais ils m'ont quand même beaucoup enseigné lorsque je vivais directement sur les terres, avant qu'ils ne décèdent. La dernière chose qu'ils m'ont apprise avant leur décès, c'est comment tuer un ours. Lorsque vous fabriquez également la graisse, vous utilisez la graisse de l'ours.
C'est pour moi, quand j'allais à l'école, par rapport à aujourd'hui, j'envisage toujours les choses de la même façon. C'était notre moyen de survie. On vivait de la terre. On a survécu. Et mon père, c'était très difficile pour lui. Quand il a commencé à être chasseur, c'était dur. On n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, a beaucoup de matériel, on a des véhicules, un skidoo, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. On a aussi des génératrices pour avoir de l'électricité, pour avoir de l'éclairage. Tout ce que nous avons aujourd'hui, même nos téléphones, on a des moyens modernes. Mais de là où vient mon père, à l'époque, c'était dur quand il nous apprenait tout ça. Mes frères et sœurs n'ont pas fini l'école. C'était, il y avait tout ce que mon père voulait nous enseigner quand on était, quand on vivait dans la nature. C'était difficile. Je ne veux pas revenir à cette époque. Je suis retournée dans la grande nature avec mes fils pendant des courtes périodes. Pendant une semaine ou en séjourné là-bas, il n'y avait pas beaucoup de chasse. C'est différent aujourd'hui. Il n'y a plus autant de ressources, il n'y a plus autant d'abondance dans la nature. Autrefois, c'était la grande abondance. Notre source de revenus à l'époque, c'était la vente des fourrures. Mon père était un grand chasseur, d'après ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai fait mes recherches. J'ai appris beaucoup de mon père. Oui, il était un grand chasseur. Les aînés, m'ont dit que c'était un privilège d'être maître de trappage. Il était grand chasseur en plus de ça. Son père lui a tout appris. Il lui a appris à partager ses connaissances, savoir comment tuer un orignal. On était 10 enfants dans la famille. Si il y avait quelqu'un qui tuait du gibier, l'enseignement qu'on recevait, c'était qu'il fallait partager ça avec tout le monde. Bon, vous savez, c'était une période d'abondance et d'abondance d'enseignement aussi aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose sur le territoire. C'est le plus petit terrain de piégeage de Anemaska. Je me demande pourquoi. Est-ce qu'on a le plus petit terrain de piégeage? Pourquoi? Est-ce qu'on va avoir la mine? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'avantages à retirer de la mine? Je ne voudrais pas dire que je ne veux pas partager ce dont on pourrait tirer de la terre. Mon père disait, n'empêchez pas les gens de chasser, partagez. Si vous faites attention de ne pas perdre tout ça, même quand il y a de moins en moins de gibier, ça va revenir. Peut-être que quand vous serez sur la grande route, vous allez peut-être voir un orignal. Je suis reconnaissante Et j'espère maintenir les enseignements de mes ancêtres et de mes grands-parents étaient des gens très paisibles. La famille Jolly, je suis sûre, le sait. Il avait beaucoup d'empathie. Mon père était à Chisasibi en dialyse lorsqu'on a appris. Ce qui se passait, on était vraiment pris par le temps sur le territoire. Il y avait des allochtones et mon fils a commencé à travailler là. On s'est dit, bon, ben, c'est sûr qu'ils sont en train de faire quelque chose, ils vont trouver quelque chose, ça c'est sûr. Et puis mon père a appelé un jour. Je l'ai appelé. Il y a des autochtones. Et il y a des allochtones aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, peut-être une mine. On ne pourra rien y faire. On ne peut rien faire. Ça fait assez longtemps qu'ils sont là. Un jour, vous allez voir, ils vont venir. Ils vont venir pour trouver ce qu'ils veulent. Une fois qu'il y aura d'autres projets qui seront terminés, ils vont revenir. Il y avait des jeunes hommes qui travaillaient là autrefois, dans les années 60. Ils étaient déjà là. Bon, les mines, c'est difficile à arrêter. Aujourd'hui, c'est différent. Il n'y a plus tant d'abondance sur le territoire, les castors. Tout ce dont j'ai survécu, tout ce qui m'a permis de survivre, vous savez. Mais il est clair qu'il y a beaucoup moins d'abondance dans la nature aujourd'hui. Vous ne pourrez plus survivre, vivre de la terre comme auparavant. Vous allez avoir besoin d'emploi pour vos enfants, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Aujourd'hui, vous encouragez vos enfants à poursuivre leurs études. Vous ne pouvez pas enseigner quoi que ce soit à votre enfant si vous ne vous enseignez pas vous-même quelque chose et si vous n'apprenez pas à vivre de la terre. Donc, je pense qu'il est important d'apprendre à survivre et à vivre de la terre plutôt que de faire des études. Enfin, moi, j'ai fait mon choix. Quand vous avez de l'argent, quand vous aurez de l'argent, vous pourrez subvenir à vos besoins, je suppose, pour payer votre facture d'électricité, votre téléphone. Vous recevez toutes sortes de factures. Et vous avez des cartes de crédit. Il faut payer votre compte. Vous avez des véhicules pour lesquels vous devez payer. Vous devez payer vos factures tous les mois. Il y a des versements mensuels. Que vous devez surveiller de près. Vous allez avoir besoin d'argent. Faites bien attention. Surveillez ça de près. Maintenant, j'ai compris. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Vous allez avoir besoin d'argent dans l'avenir. Pour que les gens puissent subvenir à leurs besoins. Il a dit qu'il y a un changement sur le territoire. L'abondance dans la nature n'est plus la même qu'autrefois. Tout ça, je l'ai compris. Bon, alors je me dis, pourquoi je devrais avoir peur de ça? Le Créateur a créé la terre. Il a aussi créé la terre. Pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Comme il a dit, vous allez vivre avec ce que j'ai créé. Pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Le site de la mine ou de du terrain de piégeage est très petit. Je tiens à remercier Charlie Blackneck. Je me souviens, comme enfant, je l'ai vu, qu'il travaillait. Et je me disais qu'il avait tellement d'argent quand j'allais le voir, tout l'argent qu'il avait parce qu'il travaillait. Il a été adopté par son grand-père quand il était petit. Il était comme mon grand frère. Je le remercie. Je le remercie d'avoir aidé mon père. Pendant qu'il travaillait. À l'époque, prospère. Le voyez. Il achetait des choses pour mes grands-parents, pour mes parents. Et il y avait un poêle en fonte aussi qu'il avait acheté pour mes parents. Il aidait beaucoup les autres. Je suis reconnaissante, très reconnaissante d'avoir été témoin de ça, là, de toute l'aide qu'il a apportée à mes parents. Ça fait beaucoup de chemin parcouru. Charlie avait aussi ses propres enfants, mais il ne pouvait pas aller dans la nature autant qu'il voulait parce qu'il travaillait. Et lui aussi, il avait une grande famille. Ses enfants grandissaient. Je pense qu'il avait un enfant tous les ans. La famille grossissait. Ses enfants étaient petits. Il fallait qu'ils subviennent aux besoins de tout le monde. Donc c'était le début de... Enfin, c'est à l'époque où ils avaient commencé à élever leur famille. Et je me souviens très bien de ce qu'il voulait accomplir pour sa famille. Je l'ai vu parler de ses projets, comment il pouvait s'aider. Je voyais comment il subvenait aux besoins de la vie Et il transmettait les enseignements, il retenait ses enseignements, il les transmettait aussi, tous ces enseignements de mon père. Moi aussi, je veux conserver tous ces enseignements et je veux aider mes enfants. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais je veux lui donner de l'essence. Je veux aider mes enfants le plus possible parce que nous avons quelqu'un qui n'est plus parmi nous. Je vous remercie de m'avoir laissé m'exprimer.
Thank you very much. I'd like to call James. Welcome.
Bienvenue. Bienvenue à tous. Bonjour à tous. J'aimerais exprimer mes préoccupations. Nous sommes tous assis ici. Je n'aime pas parler avec des gens qui sont assis derrière moi. On devrait avoir un contexte différent, un aménagement différent, on devrait être assis en cercle et se faire face. J'ai vu des gens venir dans mon terrain de piégeage. J'ai vu quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait là, mais il était très surpris d'entendre. Bon, on a vu des chargements qui arrivaient dans notre terrain de piégeage. Et puis, on allait voir. Alors, on est allé voir Monsieur Matthew Tanush au bureau foncier. Et c'est là qu'on a découvert pour la première fois. Il y avait beaucoup de gens qui étaient surpris de ce qu'on avait révélé. Les discussions étaient en cours quant à ce qui allait se produire. C'était déjà en pourparlers et on n'en avait jamais entendu parler. On n'était pas informés. en tant que maître de trapage. Alors là, ils ont commencé à nous dire où est-ce que ça se passait et comment ça avait été approuvé. Je regrette parce que je n'étais pas là quand ça s'est produit pour la première fois. Si c'était à moi qu'on l'avait demandé, j'aurais pas voulu parler de toute cette histoire de la mine. Bon, mon frère, mon ami Josie Jenkins, c'est mon ami, lui. On était amis quand on était enfants. Bon, les gens ont déjà une piste de skidoo jusqu'à l'endroit où ça va avoir lieu. Vous savez, mon ami m'avait coupé le bras par accident. J'ai une cicatrice. Je ne pourrai jamais oublier mon ami avec cette cicatrice. Je ne me dispute pas avec lui, mais je parle simplement de mon ami. Mon document n'est pas tellement long. J'aimerais parler de la chasse. C'est ce que mon père m'a dit lorsqu'il m'a transmis la propriété du territoire. Lorsque les gens ne vous respectent pas, quand les gens veulent faire quelque chose avec la terre, est-ce qu'il faut soupçonner quelqu'un qui vient dans le territoire de piégeage? Moi, je suis le propriétaire du terrain de piégeage R19. Nous avons conclu une entente concernant les droits. J'ai demandé à mon frère plus jeune d'être témoin pour la signature du document dont je vous parle. Ce que dit ce document, vous le verrez dans l'avenir. Quand je parle de chasse, lorsque ce projet a commencé, lorsque l'Hydro a amorcé ce projet, je vais vous dire tout à ce sujet. Je vais essayer d'être bref. Quand il y a tant de commotion autour d'un projet et qu'on a l'impression de ne pas être entendu, enfin, c'est un petit peu comme ça que c'était habituellement. Je veux parler de mon expérience lorsque l'Hydro a adopté son projet.
Il a mis des signes où il y a
Bon, quand il n'y a pas de zone de chasse, dans la zone R1, ils ont mis des affiches. Quand l'hydro a installé ses pancartes, ils ont complètement oublié les chasseurs. Ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Ils n'ont pas tenu compte des chasseurs sur le terrain de piégeage. Si le projet est adopté et va de l'avant, s'il vous plaît, je veux parler de ce problème. Je veux vous dire tout de suite qu'il y a des gens qui aiment la chasse, qui adorent la chasse. Et à un moment donné, ils vont voir des pancartes où ça va dire « chasse interdite ». Et nous, en tant que propriétaires et chasseurs de la terre, avec mes frères et sœurs plus jeunes, ils adorent chasser. S'ils voient les affiches sur le territoire de piégeage disant que c'est une zone de sécurité et que la chasse est interdite, ce ne sera pas bien vis-à-vis de nous, la façon dont les choses vont se passer. Une fois, je chassais et les agents de sécurité sont venus me voir et il m'a informé que j'étais dans une zone de chasse interdite. Ils ont imposé leur loi, des zones de sécurité, ils ont créé tout ça. Et à un moment donné, ils nous ont informé qu'on avait omis quelque chose, que la sécurité m'a approché et m'a dit « Vous n'êtes pas censé chasser ici parce qu'il y a une affiche qui dit que la chasse est interdite ici. » Est-ce que c'est à ça que je vais faire face encore une fois? Je ne serai pas surpris la prochaine fois que ça se produira. Bon, moi, je parle au nom de ceux qui ont abandonné la chasse. Vraiment, ça m'affecte beaucoup pour tout ce qui concerne la chasse. Ça m'affecte beaucoup et je veux le dire à voix haute, avec force. Ils devraient tenir compte de nous parce que nous sommes des chasseurs chevronnés. Ils ne devraient pas nous dire que la chasse est interdite à tel ou tel endroit. Nous ne sommes pas les seuls qui chassons.
Il y a d'autres personnes également qui viennent de loin juste pour chasser. Est-ce que ces personnes doivent également faire face à des situations devant des tribunaux, devant des amendes, avoir des zones de chasse, des zones sécurisées? Et ce sont des points que je voudrais soulever aujourd'hui, qu'il faudrait passer en revue la situation des chasseurs. Alors, j'aimerais que vous passiez en revue les droits des chasseurs dans le cadre de l'utilisation des terres. Je vous remercie de votre attention. J'aime tout le monde. Je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit. Merci. Merci de votre présentation. Simplement, titre d'information, donc, il y a un accord entre Nemaska Lithium et les maîtres de trapage de R19. Est-ce qu'il y a une entente formelle, officielle, simplement pour nos dossiers, pour que nous comprenions bien ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une entente entre Nemaska Lithium et les maîtres de trapage de R19? Non. Il n'y a pas d'entente directe entre l'entreprise et les maîtres de trapage. Ce n'est pas possible en fonction donc de la politique minière décrite. Donc, c'est inclus dans l'entente Chimichi. D'accord. Ok, je comprends. Très bien, merci beaucoup. J'ai un document à vous remettre. Oui. Si vous voulez nous le soumettre, bien sûr, nous serons heureux de le consulter. Monsieur le Président. Merci. C'est votre déclaration, n'est-ce pas? Oui. Très bien, merci. Monsieur le Président, si je peux me permettre, simplement à nouveau pour le procès-verbal, j'aimerais dire que la traduction ne fonctionnait pas. Je ne pouvais pas comprendre vraiment le message de Monsieur Paty. Comme exemple, elle a parlé de la R19 et c'est que Monsieur Paty de R20. Donc, ça va être difficile pour moi d'entrer dans les détails pour pouvoir lui répondre. Maintenant, en ce qui concerne la zone de sécurité, est-ce que vous pourriez le mettre à l'écran? Parce que le commentaire de James est très important concernant les droits des chasseurs. Comme vous le savez, nous l'avons dit, et donc j'ai ici la soumission écrite de M. Opachi. Ce sera intéressant, oui, de pouvoir en prendre note. Mais de manière générale, on parle de la zone de sécurité et les droits des chasseurs, donc sur les territoires. Est-ce que je pourrais avoir le micro, s'il vous plaît? Alors, nous avons discuté avec M. Opachi et donc dans l'entente justement de Chinucci, il y a justement une clause concernant les zones de chasse en particulier. Et simplement pour vous rappeler qu'il y a ici la chasse à loi, ici, comme on l'a mentionné hier. Et bien sûr, la zone de sécurité ne va pas s'appliquer lorsqu'il n'y a pas d'opération minière. Donc, nous arrêtons toutes les opérations minières et nous allons permettre justement la chasse ici, à cette limite-là, pendant la pause de la chasse à l'oie, parce que pour des raisons de sécurité, il n'y aura personne qui va travailler donc dans cette région. Ensuite, le reste de la zone de sécurité, comme je l'ai mentionné ici, là, c'est vraiment une petite empreinte. On parle de 1,5 km sur 2,5 km ici. Mais ces limites ont été établies afin que nous puissions avoir des références visuelles claires sur le terrain lorsque l'on que ce soit une référence facile. On n'a pas besoin de mettre des barrières ou des clôtures. Mais vous voyez ici la limite nord. Là, c'est quelques mètres qui sont donc de la halde, des résidus. Puis ici, c'est justement, les limites ont été placées de telle sorte que l'on évite toute personne qui se présente dans cette région et qui ne serait pas vue par les camions qui vont décharger, par exemple, les roches concassées. Il faut s'assurer que personne ne sera blessé par ceci. Là aussi, il y a une route d'accès donc à la plage. Il n'y aura pas de clôture, mais pour des raisons de sécurité, comme j'essaie de le présenter, on ne veut pas avoir, comme je l'ai dit, on veut avoir autant d'employés écrits que possible. Mais là, on ne veut que personne, bien sûr, soit tué par une balle perdue. Donc, c'est simplement pour mentionner, préciser ceci. Alors, merci, M. Bourassa, de cette information. J'ai deux personnes. Donc, on va pouvoir parvenir à notre objectif. Il est 12h05. Et là, Marianne Blacknell. Oui? Désolé.
Yeah, that's. Oh, I thought you were presenting one presentation. Oh, sorry. Oh, please. So now it's your turn. Sorry.
Donc désolé. Oui. Nancy Wapachi, vous avez la parole. Alors, Monsieur le Président, bienvenue à Nemaska et bienvenue au groupe COMEX et toutes les personnes qui participent à cette audience. Mon nom est Nancy Wapachi, senior. Je suis la femme donc du maître de trapage. Et j'ai été ici, présente depuis la relocalisation de Nemaska. Et j'aimerais parler en cri. Alors, j'aimerais vous remercier tout le monde. Et je pense que toutes les personnes qui ont participé, j'aimerais aussi les remercier. Je vous salue toutes et tous et je voudrais simplement... Donc, je pense que tout le monde me connaît ici. Donc, mon mari est James Opachi. C'est un maître de trappage pour la R20. Et je peux dire qu'il y a eu énormément de choses que nous avons dû affronter, beaucoup de difficultés qu'ils ont présentées en tant que famille avec mon mari. Et également nos enfants. Et nous avons perdu aussi un enfant. J'ai 3 filles et un petit-fils. Alors, je remercie également le Créateur. Mon grand-père, Thomas Nipash, qui était également un maître de trappage, qui est décédé. Alors, je peux dire également que mon père... Bon, j'ai beaucoup appris de lui. Il avait 95 ans en 2008. Il est décédé. Donc, ça fera 7 ans le 1er avril. Et il nous a certainement laissé beaucoup de choses derrière lui. J'avais vu justement le paysage avant le détournement de la rivière et avant également la submersion de nos lignes de trappage ou de piégeage. Et en fait, c'est là où j'ai vu le dernier voyage en canoë. Et c'est là où les choses me sont apparues clairement. Mon cœur pleurait. Mais j'essayais quand même d'avoir un regard orienté vers l'avenir. Mais bon, personne ne voulait m'aider. Et je pensais au Créateur et je suis reconnaissante de voir que lorsque donc, nous étions en canoë, de pouvoir aller voir l'endroit où mon père nous avait élevés. J'étais très reconnaissante de ça et nous avons pu marcher également. Et il y avait un des petits-enfants qui était avec moi et cela m'a beaucoup parlé. Et également dans la famille Wopachi, et nous étions 19. La dernière activité au cours de laquelle j'ai aidé, ce sont des événements qui se sont tenus. Et j'ai senti... Et mon père, feu mon père, m'avait dit, si vous voulez quelque chose que quelqu'un d'autre a, bien, il faut simplement... C'est quelque chose qui est injuste, qui est fait envers vous, il faut simplement pardonner. Alors, je crois que le Créateur est derrière moi et qu'il va m'aider à nouveau à passer à travers les épreuves qui se présentent. J'ai 14 petits-enfants. Et j'espère qu'ils pourront trouver un emploi, des occasions d'emploi. Dans le projet, ils aiment vivre sur nos terres et à chaque semaine de chasse à l'oie, je les vois partout. Ils Et je suis vraiment très reconnaissante envers le Créateur. Et j'espère, enfin, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir, qu'ils vont vraiment s'en sortir, qu'ils vont réussir. Mon petit-fils le plus jeune a 1 an. Est-ce que j'ai appris? Ce que je sais finalement au fond de mon cœur, c'est que je comprends que nous faisons parfois des rencontres dans nos vies qui sont douloureuses. Et je crois que le Créateur m'a enseigné à tourner mon regard vers l'avenir. Oui, bien sûr, j'ai connu, j'ai été blessée, j'ai connu des moments difficiles lorsque nous avons vu ces projets au début. Et je sais que c'est très difficile pour mon mari également présentement. Alors j'essaye vraiment de l'aider de toute manière possible dans ce processus. Et nous essayons bien sûr de faire la même chose les uns pour les autres. Nous essayons de nous traiter mutuellement sur un pied d'égalité. Certainement, il y a des éléments qui vont apporter certaines divisions entre nous, mais essayons néanmoins de travailler ensemble. Mon père disait, oui, parfois nous étions en désaccord sur certaines choses, mais je me posais toujours la question, qu'est-ce que je fais dans une telle situation? Alors, ce à quoi je pense, c'est que finalement, combien cela blesse chaque personne. Alors, je pense au Créateur chaque jour et je le remercie chaque jour de la vie que nous avons, de la vie qui nous a été donnée. Et d'essayer de tous nous traiter donc mutuellement sur un pied d'égalité, c'est comme ça que nous pouvons avancer ensemble. Et c'est un petit peu voilà, la sagesse que j'ai tirée des obstacles rencontrés. Et c'est cette force que m'a donnée le Créateur, c'est-à-dire d'être capable de toujours regarder vers l'avenir. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je remercie tout le monde. La chose la plus importante pour moi est de toujours orienter mon regard vers l'avenir, même s'il va y avoir des difficultés, comme ceci nous a déjà été dit, nous allons certainement traverser des périodes difficiles qui vont se présenter sur notre chemin, parfois. Mais en premier lieu, nous devons toujours penser au Créateur. Alors, je vous remercie.
Thank you.
Ensuite, c'est Marianne Blackenet qui va prendre la parole. Alors, pour les personnes qui sont dans la salle, nous aurons ensuite M. Freddy Joly. Et peut-être que notre chef voudrait également prendre la parole pour conclure cette audience. Et au nom du COMEX, nous demanderons à Philippe également aussi de clôturer cette audience. Et voilà un petit peu notre ordre du jour. Alors, bienvenue. Bonjour. Merci de me donner l'occasion de présenter mon rapport. C'est le groupe de discussion sur le groupe des femmes de la Nation Crie de Nemaska et l'impact. Est-ce que je pourrais vous demander une pause de 2 minutes? Il faut que je sorte juste 2 minutes. Est-ce que vous pouvez attendre? Il faut vraiment que j'utilise cette pause de 2 minutes. Je ne suis peut-être pas le seul qui a besoin d'une pause de 2 minutes. C'est une pause naturelle, disons.